VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 10 novembre 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Le Burundi ne brûle pas, a dit au Conseil de sécurité de l'ONU Alain Nyamitwe, le chef de la diplomatie burundaise.
À Kinshasa, le président Joseph Kabila a annoncé hier la tenue imminente d'un dialogue national sur le calendrier électoral en RDC.
Au Tchad, le gouvernement a décrété hier l'état d'urgence dans la région du lac Tchad.
Ici à Washington, le président Obama et le premier ministre israélien Netanyahou discutent de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.
Et puis, quatrième débat ce soir des candidats à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016, ici aux États-Unis.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le ministre burundais des Affaires étrangères a démenti hier que son pays soit pris dans une spirale de la violence. Intervenant par vidéoconférence de Bujumbura lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Alain Nyamitwe a déclaré que le Burundi ne brûle pas, que le pays est en général calme et que les citoyens vaquaient à leurs occupations dans la quiétude. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
M. Nyamitwe a souligné qu'il y a encore quelques endroits circonscrits dans certains quartiers de Bujumbura où de petits groupes de criminels armés s'activent encore. Il s'est inscrit en faux contre les déclarations du représentant de l'Union africaine selon lesquelles la violence s'étendait au-delà de la capitale burundaise. Le représentant de l'Union africaine, Tété Antonio, a dit au Conseil que la flambée de violence et les violations graves des droits de l'homme ont fait fuir 200 000 Burundais vers la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Il a déploré ce qu'il a appelé le lot quotidien de la population burundaise, les assassinats ciblés de personnalités politiques et militaires, les exécutions extrajudiciaires, la torture ainsi que d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, les arrestations, les accrochages entre la police et des éléments armés, la découverte régulière de corps dans les rues de certains quartiers. Pour sa part, la France, qui a réclamé la réunion du Conseil de sécurité, a exhorté la communauté internationale à mettre fin aux violences qui s'intensifient au Burundi et réveille le spectre d'un génocide comme au Rwanda voisin en 1994. Elle a aussi proposé une résolution qui menace de sanctions les auteurs de ces troubles et appelle les partis à rejeter toute forme de violence.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila devrait annoncer dans les jours qui viennent la tenue d'un dialogue national en vue d'élections apaisées. Des détails avec Eric Manirakiza.
Dans une rencontre avec les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, M. Joseph Kabila a annoncé sans donner de date la tenue imminente d'un dialogue national sur le calendrier électoral. Il aurait déjà remis un message important aux députés et sénateurs, mais son contenu n'a pas été rendu public. Hier, l'Assemblée nationale a validé la candidature de Corneille Nanga et Norbert Basengezi au poste laissé vacant de président et vice-président de la CENI. Pour les opposants, la mise en place de nouvelles provinces, la nomination de commissaires spéciaux et les démissions en série du bureau de la CENI sont autant de signes d'une volonté de repousser la présidentielle ou de la rendre impossible. En septembre, l'UPDS, parti d'Étienne Tshisekedi, s'était retiré des négociations avec le pouvoir après un constat d'échec. Les trois principaux partis d'opposition ont redit vendredi leur refus de tout dialogue. L'opposition accuse M. Kabila de chercher à se maintenir au pouvoir à l'expiration de son second et en principe dernier mandat.
Toujours en République démocratique du Congo, le groupe français Necotrans a annoncé hier avoir acquis la société Mining Company Katanga, spécialisée dans les services logistiques et le génie civil pour le secteur minier en République démocratique du Congo, et propriété de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Monsieur Katumbi n'avait pas pu être joint lundi soir pour expliquer les raisons de cette cession. En prenant pied au Katanga, souligne l'AFP, Necotrans vient chasser sur des terres où est déjà actif son grand rival français, le groupe Bolloré.
Le gouvernement tchadien a décrété hier l'état d'urgence dans la région du lac Tchad, souvent le théâtre d'attaques attribuées au groupe Boko Haram. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Selon un communiqué officiel lu à la radio nationale hier à N'Djamena, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant l'état d'urgence dans la région du lac Tchad, frontalière du Nigeria. Maintenant, le gouverneur de cette région a le pouvoir d'interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et horaires qu'il aura fixés. Il peut aussi ordonner des perquisitions des domiciles de jour et de nuit sous l'autorité du procureur de la République et de récupérer des armes. Dimanche, deux femmes kamikazes se sont faites exploser à Ngouboua sur les rives du lac Tchad. Deux personnes au moins ont été tuées et 14 autres blessées. Le 10 octobre, un triple attentat suicide à la sous-préfecture de Bagassola s'était soldé par 41 morts. Toutes ces attaques ont été revendiquées par le groupe Boko Haram.
En Tanzanie, le nouveau président élu, John Magufuli, a annoncé de nouvelles restrictions concernant les missions à l'étranger des fonctionnaires ainsi que la fin de certaines exonérations fiscales. Des mesures chocs qui semblent annoncer le début d'une nouvelle politique d'austérité. Claire Morin-Gibourg.
Le communiqué du nouveau président, John Magufuli, est lapidaire. Le président a mis un terme à tous les voyages à l'étranger des fonctionnaires du gouvernement avec effet immédiat. Désormais, si un agent public a besoin de voyager, il devra obtenir l'approbation du président en personne ou du ministre de la fonction publique. Il est de notoriété publique que certains fonctionnaires faisaient de fréquents et coûteux voyages à l'étranger à la charge des contribuables. Alors que la Tanzanie est pourtant l'un des pays d'Afrique qui bénéficie le plus de l'aide au développement. John Magufuli, qui a promis de doubler les recettes fiscales nationales au cours des 5 prochaines années, avait besoin d'un changement radical. Il vient d'intimer l'ordre à tous ses ministres de se rendre dans les régions rurales du pays afin d'écouter les problèmes et les griefs du peuple. Le nouveau président a aussi fait une visite surprise au ministère des Finances vendredi dernier pour mettre fin aux exonérations fiscales. Si ces nouvelles mesures font effet, John Magufuli aura mérité pleinement le surnom donné par ses partisans, John le Bulldozer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rencontrés hier à Washington et ont tenté de trouver des moyens de faire face à ce que M. Obama a appelé une situation sécuritaire qui se détériore au Moyen-Orient. Les deux leaders, dont les relations n'ont pas toujours été très bonnes, avaient leur premier face-à-face depuis plus d'un an. M. Netanyahou avait fait publiquement, devant les adversaires républicains du président, campagne contre l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet entre Téhéran, les États-Unis et leurs partenaires du P5+1. M. Obama a tenté de minorer cet incident et il a dit que la sécurité d'Israël était un de ses principaux objectifs en politique étrangère.
Deux Américains font partie de ceux qui ont été tués hier en Jordanie. C'était dans un centre d'entraînement de la police où opèrent des instructeurs de la compagnie DynCorp basée aux États-Unis. Selon le porte-parole du département d'État, John Kirby, deux autres Américains ont été blessés dans l'attaque perpétrée par un policier jordanien. Pour sa part, un officiel jordanien a déclaré qu'un instructeur sud-africain et deux Jordaniens ont aussi été tués, ainsi que l'assaillant qui a été abattu par la police, ce qui porte à 6 le nombre de morts.
Cette attaque coïncide avec le 10e anniversaire des attentats suicides revendiqués par Al-Qaïda contre des hôtels à Amman et qui avaient fait une 60aine de morts et des dizaines de blessés le 9 novembre 2005. La Jordanie est un allié stratégique des États-Unis au Moyen-Orient et participe à la coalition conduite par les Américains contre le groupe État islamique en Syrie.
Ici aux États-Unis, les principaux candidats à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016 s'apprêtent à croiser le fer dans un 4e débat télévisé pour un lever de rideau. Écoutons Chérubin Dorcil.
Le rendez-vous ce soir est à Milwaukee, dans le Wisconsin. Nouveau cas de figure, 2 des 10 candidats ayant pris part au dernier débat, Chris Christie et Mike Huckabee, ont été relégués au second groupe, celui des moins cotés dans les sondages. Les 8 premiers sont Ben Carson, Donald Trump, Marco Rubio, Jeb Bush, John Kasich, Carly Fiorina, Ted Cruz et Rand Paul. 5 autres prendront part à un mini-débat, celui des mal classés, alors que 2, le sénateur Lindsey Graham et l'ex-gouverneur de New York George Pataki, ont été totalement mis à l'écart pour n'avoir pas du tout progressé dans les intentions de vote. Quelques points à suivre ce soir. Comment le Dr Carson va-t-il réagir face aux multiples interrogations et accusations concernant son passé? Carson croit que les attaques dans les médias tourneront à son avantage. Donald Trump, qui lutte avec le neurochirurgien pour la première place, a fait le gros public samedi sur NBC au programme Saturday Night Live.
Donald!
Enrique!
I brought you the check for the wall.
Marco Rubio sera aussi observé de près. Après une belle performance dans le dernier débat et des attaques de Trump quant aux présumées dépenses incontrôlées du sénateur, un faux pas du jeune sénateur cubano-américain favoriserait peut-être Jeb Bush, qui peine à se faire une popularité à 3 mois de la première consultation électorale.
À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
La corruption est un fléau au Kenya, a déclaré lundi l'ambassadeur américain Robert Godek lors du lancement d'un programme de 650 millions de dollars financé par les États-Unis pour des médicaments. Monsieur Godek a averti que les auteurs de détournement d'argent seront poursuivis en justice. Les fonds publics doivent aller à leurs bénéficiaires et non dans les poches des fonctionnaires qui trahissent la confiance du public, a-t-il souligné. Selon un rapport du contrôleur, seulement 1% des dépenses gouvernementales répondent aux règles comptables. L'opérateur français Télécom Orange a annoncé lundi un accord de cession de ses 70% de Telecom Kenya à Helios Investment Partners, basé à Londres. Dans un communiqué, Orange affirme néanmoins que l'Afrique et le Moyen-Orient restent une priorité. Telecom Kenya est le 3e opérateur mobile au Kenya avec 4 millions de clients, souligne le groupe français. La fameuse Apple Watch a désormais une grande rivale. En effet, l'horloger suisse Tag Heuer a dévoilé lundi à New York sa première montre connectée conçue avec Google et Intel, rapporte l'AFP. Cette montre reprend les lignes de la Carrera, popularisée par Brad Pitt. Avec un boîtier en titane, le fond de cadran est disponible en noir, blanc et bleu et la batterie a une autonomie d'une journée. Le bracelet de la Carrera Connected est en caoutchouc, mais il est prévu un bracelet en cuir dans les prochains mois.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Retour sur la défaite malienne face au Nigeria en finale de la Coupe du Monde des cadets.
Oui, les tenants du titre, vous le savez, ont battu les aiglonnés maliens 2-0 dans la nuit de dimanche à lundi. Une finale 100% africaine au stade Vilna Del Mar. Le Nigeria qui a enlevé sa 5e couronne mondiale de la catégorie. Et pour une première finale, les Maliens pouvaient être fiers. Comme l'explique le président de la Fédération malienne de football, j'ai joint juste avant leur départ du Chili, le général Baba Diarra.
Un parcours plus que honorable. Et nous sommes très contents, nous sommes fiers de notre équipe. Nous souhaitons vraiment garder l'effectif pour la prochaine compétition internationale. Cette équipe a besoin d'être encore mieux encadrée et mieux organisée, vraiment bien suivie. C'est ce qui reste à faire pour qu'on puisse obtenir la consécration dans 2 ans encore.
Le général Baba Diarra joint au Chili juste avant le départ de l'équipe malienne en route pour Bamako.
La Fédération internationale d'athlétisme donne à la Russie jusqu'à la fin de la semaine pour répondre aux accusations de dopage.
Les accusations de dopage et de corruption à l'égard de la Russie, contenues dans le rapport de l'Agence mondiale antidopage, sont infondées, a déjà répondu le numéro 2 de l'Agence russe antidopage, Nikita Kamaïev. De son côté, la Fédération internationale d'athlétisme va lancer la procédure d'application des sanctions contre la Russie, demandé par l'Agence mondiale antidopage. Enfin, Idrissa, comme d'habitude, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Orlando 84, Indiana 97, Chicago 111, Philadelphia 88, Minnesota 117, Atlanta 107, Portland 104, Denver 108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La situation au Burundi continue de préoccuper la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme. Hier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la France a exhorté la communauté internationale à mettre fin aux violences qui s'intensifient au Burundi et réveillent le spectre d'un génocide comme au Rwanda voisin en 1994, tandis que le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Niamitwe, assure que le pays ne brûlait pas. Paris a proposé une résolution qui menace de sanctions les auteurs de ces troubles et appelle les parties à rejeter toute forme de violence lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York qui a duré près de 3h30. Monsieur Niamitwe a promis que le dialogue avec l'opposition allait se poursuivre et il a demandé de ne pas recourir à des sanctions qui radicalisent les points de vue. Le projet de résolution soutenu par Paris demande par ailleurs au secrétaire général Ban Ki-moon de présenter des mesures d'ici 15 jours, mesures visant au renforcement de la présence de l'ONU au Burundi. Ces mesures sont réclamées par les défenseurs des droits de l'homme comme l'ONG Human Rights Watch. John Linden a joint par téléphone Philippe Bolopian, directeur auprès de l'ONU de Human Rights Watch, qui parle tout d'abord de son analyse de la situation au Burundi.
La situation est extrêmement grave au Burundi. Depuis des semaines, on retrouve des corps dans les rues le matin. Dans de nombreux cas, il semblerait que certaines de ces morts soient dues à un usage de la force excessif de la part de la police burundaise. On entend aussi des discours menaçants de hauts responsables au sein du gouvernement qui parfois semblent tenter de diviser les Burundais ou d'appeler à la violence. Et donc, tout cela fait que le pays semble aujourd'hui être au bord du gouffre et il est très important que la communauté internationale fasse de son mieux pour essayer de prévenir le pire.
Alors justement, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour parler du Burundi. Qu'est-ce qui ressort de ces assises ?
On a assisté à des discours très alarmants de hauts responsables onusiens, le conseiller de l'ONU pour la prévention des génocides, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, un haut responsable onusien chargé des affaires politiques. Tous ont la même analyse de la situation. Tous préviennent qu'une catastrophe est possible au Burundi et tous encouragent le Conseil de sécurité de l'ONU à réagir et à réagir vite avant qu'il soit trop tard.
Alors, vous avez fait un certain nombre de recommandations à certains acteurs clés de la situation au Burundi. Qu'est-ce que vous attendez des uns et des autres en quelques mots ?
Bien écoutez, d'abord, on pense que le Conseil de sécurité doit envoyer un message très très fort qu'il ne tolérera pas, par exemple, les appels à la violence ou à la haine, en particulier à la haine ethnique. Il doit également s'efforcer de renforcer la présence de l'ONU au Burundi en cette période de crise. Il peut peut-être aussi étudier des plans de déploiement d'une force de police internationale ou régionale pour essayer de calmer la situation dans les quartiers où on assiste en ce moment au plus de violence, évidemment en accord et en coopération avec les autorités burundaises. Je pense aussi que l'Union africaine doit accélérer le déploiement de ses experts en droits de l'homme. C'est une décision que l'Union africaine avait annoncée. Elle doit aussi accélérer le déploiement d'une mission d'enquête pour essayer de faire la lumière sur ce qui se passe en ce moment au Burundi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme doit aussi peut-être tenter de renforcer sa présence dans le pays. On a besoin de savoir qui fait quoi en ce moment, qui sont les personnes qui sont derrière ces assassinats, dont certains semblent ciblés. On a vraiment besoin d'une réponse concertée de la communauté internationale. Tout le monde parle souvent de diplomatie préventive. Eh bien, le Burundi est une occasion de la mettre à l'épreuve.
Depuis que vous avez fait ces recommandations, est-ce que vous avez un retour en quelques secondes ?
Pour l'instant, on a le sentiment que le message est passé dans la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres ont été maintenant clairement avertis de ce qui pourrait se passer dans le pays si rien n'est fait. La clé est maintenant d'avoir une réponse concrète des acteurs internationaux et c'est ce que nous allons surveiller attentivement dans les prochains jours.
Philippe Bolopian, directeur auprès de l'ONU de Human Rights Watch. a rappelé que le représentant de l'Union africaine, Tété Antonio, dont le ministre burundais des Affaires étrangères a rejeté les déclarations, a dit au Conseil de sécurité que la flambée de violence et les sérieuses violations des droits de l'homme ont fait fuir 200 000 Burundais vers les pays voisins. Il a mis en garde contre toute déclaration incendiaire, estimant que c'est inacceptable compte tenu, je cite, du passé douloureux de la région des Grands Lacs. Parlant de Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Al-Hussein, s'est fait l'écho de la mise en garde aux officiels burundais, disant que de tels propos incendiaires pourraient faire prendre à la crise une dimension ethnique. Au Burkina Faso, la campagne électorale bat son plein depuis dimanche pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre. Cette année, comme à chaque échéance électorale depuis plusieurs années, l'État soutient financièrement les médias du pays pour une bonne couverture de la campagne. Mais un journal, Le Pays, a toujours décliné cette offre, citant des principes de neutralité. Pour en savoir un peu plus, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Bondi Ouoba, rédacteur en chef du journal Le Pays.
Les raisons sont très simples. Il faut dire que cette décision, nous l'avons prise depuis les élections de 2010, qui avaient vu la réélection de Blaise Compaoré à la tête de l'État burkinabé. Alors essentiellement, nous avons décidé de ne pas prendre la subvention de l'État pour la campagne. Tout simplement, nous avons estimé que jouer au jeu de l'équilibre en couvrant la campagne et en accordant les mêmes chances à tous les candidats, ce n'est pas chose évidente. Pour ne pas donc égratigner la chance d'un candidat et donner toutes les chances égales à tous les candidats, nous avons donc décidé d'observer et de ne faire l'écho d'aucun meeting et d'aucune campagne. En revanche, nous l'avons dit et nous répétons, si un candidat se rend coupable d'actes de violence, de vandalisme ou de tout autre comportement répréhensible, nous ferons la relation.
Mais en faisant ainsi, vous n'éclairez pas l'électeur qui attend de vous que vous apportez l'information sur chaque candidat?
Oui. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons décidé de reconduire notre éditorial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur notre décision de ne pas couvrir la campagne qui date de depuis 2010. Et à chaque échéance électorale, à la veille de chaque campagne électorale, c'est plutôt pour éclairer l'opinion sur notre position qui est de ne pas couvrir la campagne en ses aspects meeting.
Et si vous couvriez ces campagnes et justement releviez ces partis qui concernent la démagogie, est-ce que ça ne rendrait pas plus service aux électeurs?
Ce n'est pas le seul aspect qui fonde notre décision de ne pas couvrir la campagne. L'autre aspect consiste à ne pas, autour d'un commentaire ou d'un reportage, utiliser un mot qui peut paraître de trop, qui peut paraître donc en train d'égratigner les chances d'un candidat. C'est un exercice très délicat pour la presse en ces temps difficiles. Cela dit, nous avons fait un choix et nous respectons le choix qu'ont fait les confrères de couvrir aussi la campagne.
Quel est votre rôle dans cette campagne-là?
Notre rôle, il y en a un, c'est la neutralité.
Bondi Ouoba, rédacteur en chef du journal Le Pays.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
À Dakar, ouverture hier de la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, 800 personnes participent à cette réunion pour discuter des défis du terrorisme sur le continent. Quelles sont les particularités de cette rencontre? Idriss Fall a joint à Dakar l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, organisateur du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique.
C'est un forum de concentration sur trois thèmes majeurs. Un, le terrorisme, l'Afrique face aux défis du terrorisme. Deux, les réponses africaines aux défis de la sécurité. Et trois, les partenariats internationaux de l'Afrique. L'idée, c'est que les Africains n'avaient pas suffisamment pris conscience du danger et de la présence des terroristes dans le continent. L'attaque des ambassades de Tanzanie et du Kenya n'avait pas sonné suffisamment l'alerte. au niveau du continent. Les 10 ans de guerre en Algérie contre le terrorisme n'avaient pas non plus réussi à mobiliser le continent. Maintenant, avec la présence et les actions néfastes de Boko Haram dans plusieurs États du continent, la présence de Daesh en Libye, la présence des Shebab en Somalie et au Kenya, la présence de Acmi, de Moujaou, en Sardine et autres, il y a une sorte de phénomène de métastase du fléau terroriste et les événements malheureux du Mali où un pays souverain a été attaqué, occupé par des groupes djihadistes. Tout cela mis ensemble a quand même relevé le niveau de prise de conscience des Africains. Nous voulons en discuter, nous voulons mieux comprendre dans un forum informel. Il n'y a pas de démarche contraignante de résolution, c'est juste des échanges approfondis et libres. Bien entendu, un forum hybride où des chefs d'état-major côtoient des professeurs d'université, des ministres, des leaders de think tank, des chercheurs. Cette année, nous attendions 350 invités. On se retrouve avec 800 invités. 1000 participants ont été badgés. Donc, l'intérêt est extraordinaire.
Comment est-ce que l'Afrique peut répondre à la menace terroriste?
D'abord, le premier principe important sur lequel on doit s'entendre, c'est que personne ne pourra résoudre ou régler les problèmes du terrorisme, les autres défis de la sécurité en Afrique, si les Africains ne se mettent pas en première ligne. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité, y compris avec des amis qui ont les meilleures intentions du monde. Alors, l'Afrique a maintenant un défi structurel. Nous avons 54 États, c'est ce que nous appelons la balkanisation de l'Afrique. Et ces États, pris individuellement, y compris les gens comme le Nigeria, ne peuvent pas tout seuls prendre en charge le défi du terrorisme. Nous sommes obligés et contraints à ce que nous appelons la mutualisation, la mise en commun de nos ressources, de nos intelligences, de nos compétences pour travailler ensemble à faire face au défi du terrorisme. D'autant plus que nous avons affaire à des gens qui sont en réseau, qui travaillent ensemble, qui coordonnent leurs informations, leurs renseignements. Nous devons absolument faire la même chose, aller au-delà des préoccupations de souveraineté nationale pour comprendre que seules des forces régionales africaines, bien coordonnées, bien entraînées, bien équipées, peuvent aider le continent à faire face à cette guerre asymétrique, ce défi sans précédent dans l'histoire du continent.
L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Tidiane Gayo, organisateur du Forum sur la paix et la sécurité à Dakar. Au Mali, certaines banques du pays et Western Union apportent leur soutien au village SOS d'enfants de Sanakoroba. Notre correspondant Kassim Traoré revient sur la cérémonie organisée à cette occasion.
Situé à 45 km de Bamako, le village SOS de Sanangoroba était en fête. La joie était immense chez les tout petits.
Et toujours...
La raison est toute simple. C'est une centaine de kits scolaires qui leur a été offert par certaines banques et Western Union. Les mamans Vezos n'ont pas caché leur joie. Nous vous disons merci pour ces gestes à l'endroit de nos enfants. Les fournitures scolaires plus la nourriture, ça nous va droit au cœur. Que Dieu vous le paye. L'école du village SOS de Sanankoroba n'a pas été choisie au hasard. Les résultats de cette école parlent d'eux-mêmes. Malé Sissé, directeur de l'école.
Aujourd'hui, nous avons 23 enseignants et nous avons 18 salles de classe. Et ces 18 salles de classe, c'est de la première année à la 9e année. Et ces classes-là sont doublées. Deux premières années, deux deuxième années, deux troisième années, jusqu'à la 9e. Parce que de sa création à maintenant, le seul résultat que nous regrettons un peu, c'est 59%. Sinon, tous les résultats sont au-delà. Cela est dû au fait que non seulement la qualité au niveau de l'enseignement, mais le sérieux qui est là, l'effectif est raisonnable aussi.
La responsable du service commercial monétique de la Bank of Africa reconnaît l'importance du Vezos de Sanankoroba, Sanogo Umudjara.
Je peux dire que les enfants du Vezos sont dans de bonnes mains. Les siens sont déjà grands et nous sommes très contents de Western Union qui vient faire des cadeaux pour les enfants parce que chaque enfant a droit à l'éducation. Chaque enfant a droit à la santé. Aider un enfant à réussir sa vie, c'est aider aussi le monde entier quelque part.
Le village SOS de Sanankoroba est composé de 130 enfants, répartis entre 15 familles. Chacune de ces familles est dirigée par une maman ou une tante Vezos. Aminata Mariko, tante Vezos. Nous nous occupons des enfants. Nous les encadrons comme dans les familles ordinaires. Nous faisons de notre mieux. C'est pour cela que nous vous remercions pour cet appui combien important dans l'éducation de ses enfants. Je suis dans une famille avec 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Que Dieu vous paie pour ces gestes. Ce don de certaines banques maliennes et de Western Union est venu au bon moment, car après la rentrée scolaire, bon nombre des enfants du Vezos de Sanankoroba étaient confrontés à des problèmes de fourniture scolaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et d'Anne Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.